Bonjour Kairos, bienvenue en Grèce antique. Nous sommes avec les neveux de René, Chemin de pensée, une émission sur RCF pour découvrir les textes de la philosophie et les textes qui se rapprochent également de la philosophie. Nous avons cheminé avec Sophocle et avec Antigone, avec trois émissions consacrées à cette œuvre magnifique, et nous continuons avec une quatrième émission. Alors, une information peut-être à propos de la participation de Nicolas Lemoine, qui attend un heureux événement d'ici à quelques jours ou semaines, et peut-être qu'il sera plus présent, mais on espère que ce n'est que temporaire et que tu pourras revenir parmi nous, Nicolas.
Oui, je vais aller apprendre la philosophie à des très jeunes enfants.
Bon, bah c'est bien. Alors, sans trop tarder, nous étions arrêtés sur la question de l'éthique telle qu'elle apparaît dans Antigone. Nous avons parlé d'une grille de lecture qui est proposée par Max Weber selon éthique de conviction, éthique de responsabilité, si mes souvenirs sont justes. Et donc, nous allons continuer à discuter de cette question de l'éthique. Qu'est-ce que l'éthique ? Alors, c'est un mot qu'on emploie tout le temps, notamment lorsqu'on parle des savants, lorsqu'on parle des militaires, lorsqu'on parle des médecins. Hein, on leur demande qu'ils aient de l'éthique ou une éthique. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Ce mot est un mot grec et qu'est-ce qu'il signifie ? On va essayer de consacrer cette émission à interroger le mot éthique tel qu'il peut nous apparaître à partir d'Antigone. Eh bien, sans trop tarder, nous pouvons lire le passage où Aemon va être confronté à son père Créon, qui est le maître de Thèbes. Et d'abord, c'est le coryphée qui va prendre la parole pour instaurer le dialogue.
Mais voici venir ton fils, Aemon, ton dernier-né. Serait-ce le chagrin qui le conduit ici ? La mort attend Antigone, Antigone, sa fiancée. Et sa douleur est extrême de se voir ainsi frustrée d'une épouse.
Nous allons bientôt le savoir, et mieux que des devins. Mon enfant, est-ce d'avoir entendu la condamnation à mort de ta fiancée qui t'aurait rendu furieux contre ton père et fait venir ici ? Ou bien sommes-nous pour toi un ami, quoi que nous fassions ?
Père, je suis à toi. Tes avis sont toujours bons, qu'ils me tracent la voie et je les suivrai. Il n'est point de mariage qui vaille à mes yeux le profit de t'avoir pour guide.
C'est cela, mon enfant, c'est ce qu'il faut garder dans le cœur. Ce qu'un père a décidé passe avant tout le reste. Car si les hommes souhaitent avoir des rejetons qui obéissent et grandissent à la maison, c'est pour qu'envers l'ennemi, ils soient les pires dans la vengeance, et qu'ils montrent envers l'ami autant de respect que leur père. Inversement, de celui qui fait des enfants inutiles, que dire d'autre, sinon qu'il fait son propre malheur et que ses ennemis vont beaucoup rire de lui ? Alors, mon fils, ne te départis jamais de cette disposition, au nom du plaisir que t'inspire une femme. Car sache-le, une froide étreinte, voilà ce que devient la pire des épouses quand on l'a chez soi dans son lit. Car quelle plus grande plaie qu'un ami qui est le pire des hommes ? Alors, crache sur elle comme sur un ennemi et laisse cet enfant se trouver un mari chez Hadès. Alors là, je suis obligé de faire une petite coupure de texte. Donc on va sur la fin de la réponse de Créon. Pas question que je lui décerne le moindre éloge. Non, car celui qui... que la cité a mis à sa tête, il faut l'écouter jusque dans les petites choses, justes ou non. Désobéir à qui commande, pas de mal qui soit pire. C'est ce qui anéantit les cités, c'est ce qui dévaste les familles, c'est ce qui encourage les lances alliées à fuir lâchement le combat. Au contraire, ceux qui restent à leur poste, ce qui le plus souvent leur sauve la vie, c'est d'obéir à qui commande. Ainsi, il faut défendre l'ordre des choses, et donc ne jamais plier devant une femme. Mieux vaut même, s'il le faut, tomber sous les coups d'un homme, plutôt qu'on dise de vous que vous avez été vaincu par des femmes.
Ma foi, si l'âge ne nous abuse pas, tu me sembles, en parlant ainsi, parler suivant la raison.
Père, la raison est un don des dieux aux hommes, et de tous les biens, sans doute, est-ce le plus grand. Qu'en parlant comme tu le fais, tu ne parles pas suivant la vérité, certes, je ne puis le dire, et j'espère bien n'être jamais capable de le dire. Il se peut cependant qu'un autre voie juste parfois. Né de toi, je suis tout désigné pour guetter dans ton intérêt tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, les critiques qu'on émet. Ton visage intimide le simple citoyen, alors qu'il s'agit de propos que tu n'aurais nul plaisir à entendre. mais je puis moi les écouter dans l'ombre, et j'entends Thèbes gémir sur le sort de cette fille. Entre toutes les femmes, elle est sans doute celle qui mérite le moins de périr dans l'ignominie pour des actes qui font sa gloire. Elle n'a pas voulu qu'un frère tombé au combat disparu sans sépulture, proie des oiseaux, des chiens voraces. N'est-ce pas digne au contraire de l'honneur le plus éclatant ? Voilà la rumeur obscure qui sans bruit monte contre toi. Mais pour moi, ton bonheur, père, c'est le plus précieux des trésors. Est-il pour les enfants plus grand sujet d'orgueil que les succès d'un père ? Comme pour un père ceux de ses enfants. Va, ne laisse pas régner seul en ton âme l'idée que la vérité, c'est ce que tu dis et rien d'autre. Les gens qui s'imaginent être seuls raisonnables et posséder des idées ou des mots inconnus à tout autre, ces gens-là, ouvre-les. Tu ne trouveras en eux que le vide. Pour un homme, pour un sage même, sans cesse s'instruire n'a rien de honteux. Et pas davantage cesser de s'obstiner. Vois au bord des torrents comme l'arbre qui s'est plié conserve bien sa ramure, tandis que celui qui s'obstine à résister périt arraché avec ses racines.
Merci. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je tiens à dire que la traduction que vous avez lue, vous ne la trouverez nulle part dans le commerce, puisqu'elle était un mélange de la traduction de Mazon, hein, la traduction des belles lettres qui était lue par Anne Le Corifée et Nicolas Aymon, alors que Sylvain Créon lisait la traduction de l'Auxerrois. Voilà. Juste, je voudrais reprendre... Nicolas, avec la traduction de l'Auxerrois. Mm-hmm. Un moment, Aymon dit, voilà ce que dit l'Auxerrois, « Car qui s'imagine être le seul à avoir du jugement, ou avoir une parole, ou une âme comme personne, se révèle toujours creux une fois percé à jour. » Donc ça, c'est ce que le père dira au fils, bon, alors que n'importe quoi, le fils dira au père, alors qu'effectivement, le père semble avoir parlé avec raison, hein, dit Dixit le Corifée.
Et Aymon tout d'abord, pour entrer en matière.
Oui, Aymon tout d'abord. Alors, on peut remarquer que les paroles du père, on pourrait les taxer aujourd'hui de misogynie prononcée.
Mais avant d'en arriver là, on peut remarquer que les propos de Créon sont ceux qu'on retrouve chez Main Philosophe. L'idée que la justice consiste à rester au poste auquel on a été désigné, c'est une phrase qu'on retrouve chez Platon, dans la bouche de Socrate. Le fait que la justice, ça consiste à obéir aux maîtres légitimes de la cité, que leurs ordres soient bons ou mauvais, c'est une idée qu'on retrouve chez Pascal. Avec toujours exactement la même idée que si on ne le fait pas, on risque de conduire la cité à l'anarchie et à la guerre civile. Et qu'il vaut mieux obéir à un prince qui parfois se trompe que de vivre en temps de guerre civile, parce que de tous les maux, c'est le pire. Dixit Pascal après Montaigne. Montaigne connaissait une situation de guerre civile bien plus que Pascal. C'était l'époque des guerres de religion tout de même.
Le pire des mots est, les guerres civiles.
Enfin, exactement, la phrase exacte, c'est de toutes les guerres, la pire est toujours la civile.
Ça, c'est Montaigne. Et Pascal, le pire des mots est, les guerres civiles.
C'est
rigolo, parce qu'on attend un sujet singulier, et puis c'est un pluriel qui arrive. Effectivement. Moi, je peux dire que ça me touche de près, parce que j'ai connu une situation de guerre civile en Algérie, qui a duré longtemps, 10 ans à peu près. Et ce qui est marrant, c'est qu'ensuite, religieusement parlant, je ne parle pas de politiquement parlant, des personnes sont arrivées exactement aux mêmes conclusions, à savoir, certes, nos dirigeants sont des corrompus, mais tant qu'ils sont musulmans, nous n'avons pas le droit de se rebeller contre eux. Ça, c'est des choses qui sont nées parce que, justement, ils ont médité les conséquences de cette chose-là. Mais ça a été justifié religieusement. Hein. Enfin, on voit que ça nous fait réfléchir sur l'histoire qui se répète sans cesse. Et qui ne médite pas l'histoire est appelé sans doute à la répéter.
Alors, donc, tout ça pour dire que... les propos de Créon ne sont pas ceux d'un tyran aveugle. Hein, ce sont des propos qui sont remarqués par le cœur, par exemple, comme étant les propos sages. On n'est pas face à un tyran complètement aveuglé, sanguinaire, face à quelqu'un qui serait l'innocence incarnée, Antigone. On a deux pôles opposés que rien ne peut faire approcher, que rien ne peut faire dialoguer. mais qui méritent tous les deux d'être considérés.
Oui. Et alors, moi, j'avais dit une chose, mais peut-être vous n'êtes pas d'accord, c'est que, précisément, on ne peut peut-être pas plaquer les catégories d'éthique de responsabilité et d'éthique de... Je sais pas, c'est quoi la deuxième catégorie ?
L'éthique de conviction.
De conviction.
Et l'éthique de responsabilité.
Sur Antigone, parce que, justement, il n'y a pas... Il ne semble apparemment pas peser les uns et les autres les conséquences de leurs actes.
Ah bah les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, si on reprend les catégories proposées par Max Weber, que nous avions très rapidement citées à la fin de l'émission précédente, donc l'idée, c'est que l'éthique de conviction, on agit selon un corpus rigide qui, de façon déontologique, implique tous les décisions et les gestes de la vie. C'est-à-dire qu'on n'agit pas en se demandant quelles vont être les conséquences de nos actes, on agit de façon à rester en conformité avec un corpus normatif. Et être bien, être juste, c'est rester fidèle à ses convictions, à une doctrine.
Et en même temps, toi, Anne, tu disais que c'était ce qui faisait la beauté d'Antigone, finalement. Elle inspire le respect, même si elle dit qu'elle va mourir sans être pleurée par personne, etc. Finalement, elle inspire une certaine
Parce que c'est la femme qui dit non, c'est la femme qui s'oppose à la jeune femme en plus, donc ça a encore plus de poids. C'est la femme qui s'oppose à un chef d'État, donc et quelque part peut-être à tout l'État, et qui s'y dit non et qui va jusqu'au bout. Et qui non seulement va jusqu'au bout, mais elle ne se contente pas d'aller jusqu'au bout. Elle le proclame, elle le fait savoir et elle est prête à payer de sa vie. Donc quelque part, bien sûr, ça force l'admiration, ce genre de personne. Et je ne pense pas qu'elle se soucie des responsabilités, ça ne l'intéresse pas. C'est quelque chose qui est bien, bien, bien au-delà de ce à quoi elle pense. Ce qu'elle pense, c'est au plus profond d'elle-même. C'est toute son âme, c'est toute sa vie. Eh ben, elle ne pense pas à responsabilité, elle ne peut pas.
Oui. Est-ce que ce n'est pas ça que dit le mot grec, éthos, qui donne éthique. C'est-à-dire, quand tu dis c'est toute son âme, c'est toute sa vie, le mot grec qui pourrait lui correspondre, ça pourrait être éthos,
qui donne ensuite éthique. C'est vraiment le plus profond d'elle-même, et ça n'est conciliable avec rien.
Oui, Sylvain.
J'ajouterais quand même un petit bémol à ça, c'est qu'à plusieurs, enfin, au moins un ou deux passages, elle dit que, quelque part, elle se sent obligée d'agir comme ça, vis-à-vis de son frère mort.
Oui.
Donc, honorer son frère, pour elle, c'est quand même un devoir.
Ben, j'ai pas dit le contraire.
Voilà, mais c'est pas juste par la beauté du geste. Enfin, ça va plus loin que ça quand même.
Quoi. J'ai
Il y a quand même
contraire.
Une notion aussi de responsabilité ou de conviction.
Oui, de responsabilité vis-à-vis de son frère. Mais, voilà. elle se pose pas la question des responsabilités par rapport à la ville.
Oui.
Par rapport à la cité.
Oui.
C'est ça que je voulais dire.
Oui, ça, d'accord.
Oui, Nicolas.
Bien sûr.
Pour finir sur Max Weber, ce qui s'oppose à éthique de conviction, que Anne a évoqué rapidement, c'est éthique de responsabilité. Donc l'idée, c'est de se détacher, d'être capable de se détacher d'une doctrine pour mesurer les conséquences pratiques qu'ont nos actes de face, y compris à l'adversaire, ne serait-ce que pour le circonvenir et défendre mieux sa cause. Alors, donc, avant de revenir aux propos d'Anne, qui sont très justes et qu'il faudra creuser, peut-être faut-il revenir sur ce que dit Aimon à son père.
Oui.
C'est justement, Aimon, en fait, c'est celui qui, avant de se faire expulser violemment, va tenter d'amorcer un dialogue entre les deux.
Mmh.
Et c'est celui qui dit, en gros, une phrase qu'on trouve à l'entrée du lieu où nous enregistrons actuellement, la sagesse est à la croisée des chemins.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est celui qui va dire, tu as peut-être raison, mais nul homme ne peut affirmer posséder toute la raison à lui tout seul.
C'est ça, c'est une partie très importante, c'est ça.
Mmh. Oui, et donc, qu'est-ce que ça implique, ça ? Ça implique la nécessité du dialogue et du débat, et donc quelque part de la démocratie. C'est la supériorité de la démocratie dans ce qu'elle a de meilleur par rapport au despotisme, même éclairé. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a cette tension, il y a ce débat qui existe, et cette mise en commun des points de vue et des visions qui peuvent faire émerger quelque chose qui dépasse ce que possédait chaque individu séparément.
D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, Anne ?
Non, mais ça sortait un tout petit peu
du
sujet. Il a parlé de l'arbre, tu sais, comme l'arbre qui s'est plié conserve bien sa ramure, tandis que celui qui s'obstine, etc. Non, c'est juste pour rappeler que Sophocle, c'est pas juste un très vieil auteur qu'on déterre comme ça, et que bon, il a inspiré toute notre culture à travers La Fontaine, à travers Racine,
et
Shakespeare.
Et tu parlais de Shakespeare aussi.
Voilà, et Shakespeare et compagnie. Donc en fait, il y a certaines personnes peut-être qui le savent pas, peut-être les plus jeunes d'entre nous, mais qui est vraiment très 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 très, qui a une grande partie dans notre culture.
À ce sujet, justement, pour reprendre ce que tu dis, je trouve que quelque part, la figure de Créon dans la pièce fait penser justement à ce qui a été finalement, entre guillemets, repris, parce que je ne sais pas si ça a été repris, mais en tout cas, une figure importante de l'Ancien Testament qui est le pharaon de l'Égypte ancienne, en fait. Où on voit que ce qui se passe quand Pharaon est opposé aux Hébreux, qu'on les libère ou pas, ouais, Moïse, c'est qu'en fait, il est dit que finalement, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et du coup, il y a un combat, en fait, un peu où on a l'impression que Pharaon, il agit pas vraiment complètement de sa propre volonté. Et ce qui apparaît chez Sophocle ici avec Créon, c'est un petit peu pareil. Où à un moment donné, on voit que il est dit que justement ce dont on avait parlé dans l'émission dernière, c'est le fait que un dieu peut facilement faire prendre un bien pour un mal à celui qu'il veut tromper.
Mais précisément, il faut, sans vouloir faire trop de casuistique. Est-ce que le message de l'Ancien Testament, ou d'ailleurs beaucoup de textes religieux, c'est pas de dire à ce moment-là, Pharaon s'est laissé endurcir le cœur par Dieu, mais quand même, il s'est laissé, c'est-à-dire peut-être qu'une autre voie était possible, c'était peut-être pas écrit dès le début, peut-être que si Pharaon avait été juste et avait cultivé la justice depuis son plus jeune âge, et qu'il avait été juste peut-être comme Moïse, à ce moment-là, il ne se serait pas laissé endurcir. Je ne sais pas, je pose la question.
Je ne sais pas non plus. Là. Ouais.
On peut le voir comme ça, effectivement, dans la Bible, on est dans un processus de déculpabilisation de Dieu. Un Dieu primitif est toujours double, mauvais et méchant. Dans la Bible, on entreprend un processus de désacralisation de Dieu qui devient de plus en plus saint et de moins en moins sacré. Et on en arrive au Nouveau Testament où l'épître de Jacques affirme « Dieu n'est jamais l'auteur du mal, Dieu ne pousse jamais au mal ».
Et ça va être le sujet de longs débats philosophiques tout au cours du temps. Alors une petite pause musicale et puis on va reprendre avec ces questions d'éthique à partir d'Antigone de Sophocle.
Avec sa hotte sur le dos, avec sa hotte sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait nom Papagato. Il a mis du pain sur ma planche, il a mis sur mes hanches. Il m'a promené dans un landau, il m'a promené dans un landau. Et en route pour la vie de château, en route pour la vie de château, la belle vie dorée sur tranche, il me l'offrit sur un plateau. Il a mis du grain dans ma grange, il a mis les mains sur mes hanches.
Chemin de pensée sur RCF.
Nous étions donc avec Barbara qui chantait la période de Noël. Je profite pour dire aux auditeurs qu'il y a un livre qui a été publié par Daniel Moise, que nous avons déjà diffusé au Neveu de René, qu'on peut trouver toutes les informations sur le site philosophie.tv, philosophie avec un S.tv. Donc un livre sur Barbara et un livre que je n'ai pas lu mais qui promet d'être passionnant. Donc nous revenons à Antigone. Nous discutions du caractère d'Antigone, caractère au sens éthos, et comment on peut comprendre ce caractère d'Antigone et les autres éthos, bien sûr celui des démons, celui du peuple de Thèbes qu'on n'a pas encore évoqué mais qui apparaît dans ce dialogue, puisque Hémon, c'est un personnage à part entière. Il y a Tirésias dont on n'aura peut-être pas le temps de parler, enfin il y a plein de choses, mais on va revenir à la question centrale: qui est Antigone et comment on peut la comprendre? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est quelqu'un qui est admirable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déraisonnable? Au contraire, est-ce que c'est une figure de la folie, de la déraison? Comment comprendre ça? Et y a-t-il un message donné par Sophocle ou y a-t-il une expérience à vivre, quoi? Est-ce que vous voulez reprendre un petit peu où on s'était arrêté? Qu'est-ce qu'on peut dire
Par rapport à ce que disait Anne tout à l'heure, effectivement, on voit qu'Antigone, elle a quand même une éthique de conviction, de ce qu'on a dit. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est finalement... c'est le rapport entre cette éthique-là et l'éthique de Créon. Hein. Et est-ce qu'il y en a une qui prévaut par rapport à l'autre ?
Alors, je ne sais pas. On va reprendre le texte de Max Weber qui nous a été proposé par Nicolas. Il dit, alors je vais essayer de le dire rapidement, il dit qu'il y a un abîme, une grande distance, une opposition abyssale, c'est le terme qu'il utilise, entre celui qui agit selon les maximes de l'éthique de conviction. Dans un langage religieux, nous dirions, le chrétien fait son devoir et, en ce qui concerne le résultat de l'action, il s'en remet à Dieu. Et l'attitude de celui qui agit selon l'éthique de responsabilité qui dit, nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes. Donc, vous semblez reprocher à Antigone de n'agir que suivant l'éthique de conviction, c'est ça ?
Créons aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne peuvent pas dialoguer.
Oui.
C'est que, justement, ils ne se projettent pas en dehors de ce qui leur semble être juste.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose de néfaste là-dedans ? Est-ce qu'on peut toujours prévoir les conséquences de ces actes ?
Non, déjà on ne peut pas les prévoir. Et ensuite, il faudrait savoir quelle est la responsabilité. Par exemple, souvent, on invoque la raison d'État. Et finalement, la raison d'État, c'est souvent la moins bonne. La raison d'État qui veut que, par exemple, on ne parle pas de Dreyfus parce que ça détruit l'armée et puis qu'on est pas très loin de la Première Guerre mondiale. On sait qu'il y aura une guerre avec les Allemands. Donc surtout, il ne faut pas détruire l'armée. Et les gens qui vont détruire l'armée sont des irresponsables. Donc on préfère... Taire l'affaire Dreyfus, tant pis pour lui. C'est un individu tout seul,
oui,
eh ben, il va payer. Ça, c'est la responsabilité. Il faut toujours la regarder, la responsabilité.
Ça, on ne sait jamais. Ce serait une mauvaise interprétation, à mon avis, du texte de Max Weber.
Oui.
La question de la responsabilité, ce n'est pas de dire on serait irresponsable aux yeux de la raison d'État. C'est de dire comment est-ce que mon action va être reçue par le monde qui ne partage pas forcément mes convictions, qui n'est pas parfait, et comment est-ce que je vais adapter mes convictions pour que, finalement, elles passent au mieux.
Toi, tu en fais... Mais est-ce que ce n'est pas presque un point de vue utilitariste ? Et je vais essayer de poser la question. Est-ce que dans cette pièce Antigone, finalement, la présence de la mort, elle n'est pas un remède à la... au calcul, si tu veux. Antigone ne calcule pas, Créon ne calcule pas.
Oui, non, mais moi, je pense qu'Antigone, elle n'est pas dans ce débat-là. Elle s'en fiche de la responsabilité. Ce n'est pas son truc.
Ah oui, c'est clair, mais c'est ce qu'on dit. On est tous d'accord.
Donc, Antigone, elle restera toujours des gens comme Antigone.
Et quelque part, Antigone, donc, pour rendre le personnage d'Antigone finalement encore plus attachant, il ne faut surtout pas associer Créon à quelqu'un de mauvais.
Non.
Et au contraire, le fait que Créon ait sa raison relève d'autant plus le personnage d'Antigone.
Oui.
C'est-à-dire que quelque part, c'est le petit bout de femme, pour reprendre l'expression un peu dérangeante aujourd'hui, mais c'est un peu ce que dit le texte, qui va venir à la fois montrer la nécessité et la fragilité de la raison d'État. C'est-à-dire que la raison d'État, quelque part, est toujours arbitraire. Elle repose sur rien du tout.
Disons qu'elle repose sur peut-être l'illusion d'un bien commun de la
Oui,
elle repose sur la nécessité de maintenir l'unité de la cité.
Et l'ordre.
Mais cet ordre repose quelque part sur de l'arbitraire.
Oui.
Et qu'il suffit, de rien pour que cet arbitraire paraisse et du coup ruine l'autorité de cette raison d'État.
Alors pour le coup, on pourrait se poser la question.
Parce que quand tu dis, Anne, la raison d'État est toujours la moins bonne.
Ah non, j'ai pas forcément dit ça, j'y allais souvent.
Pour être capable de dire ça, il faut appartenir à notre civilisation.
Tu penses à toutes les catastrophes qui ont été...
Je pense à une civilisation où, justement, on a appris à savoir que toutes les bonnes raisons politiques reposaient sur rien et qu'il fallait peut-être construire sur autre chose.
Parce que, justement, ça pose ce que tu dis, c'est intéressant, ça pose la question de qu'est-ce qui n'est pas arbitraire.
Et ça pose la question de se demander vraiment... Quand on demande aux savants toujours plus d'éthique, on demande aux médecins de l'éthique, on demande de l'éthique comme si c'était un produit qu'on allait rapporter, je crois que ce que nous avons fait ensemble, c'est y réfléchir, mais à partir de quelque chose qui nous prend au cœur. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, à mon avis, ce qu'on peut retenir de la lecture d'Antigone, c'est qu'au fond, ça nous dit peut-être plus de choses qu'un traité d'éthique.
Voilà, et puis je voulais dire, il y avait une très très jolie phrase, peut-être sa plus belle, de Pascal, qui est « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ».
Voilà, bon, on peut y réfléchir comment cette phrase résonne ouais. à partir de la lecture d'Antigone, ouais. c'est très intéressant. Merci à toutes et à toutes, et puis rendez-vous la prochaine émission, et puis nous repartirons sur un nouveau cycle, où peut-être nous continuerons à débattre de cette question de l'éthique qui est passionnante et qui demande d'être éclaircie. Merci, au revoir, et puis au revoir Nicolas.